Thank you. Ladies and gentlemen, could you take your seats, please? We'll be beginning in a minute or two. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. We get to that point in the program where we hear reports from the chairs of the various committees of the board. These are all hard-working committees dedicated to doing work mostly behind the scenes on all sorts of important matters relating to, in some cases, specifically the corporate good of ICANN, but in many cases, they relate to the policy work of ICANN.
Ils ont rapport avec le travail de la politique de l'ICANN. Nous allons commencer par le comité de l'audit et je vais demander à Rita Rodin-Johnson de présenter son rapport. Bonjour Rita. Bonjour à tous. J'espère que nous allons avoir notre rapport ici. Je m'appelle Rita Johnson et les autres membres du comité sont Harald Alvestrand, Steve Crocker, Dennis Jennings. Je pense que nous allons passer au transparent suivant. J'ai le plaisir de vous dire que le comité d'audit a été très occupé. Vous en allez entendre beaucoup plus au cours du processus de la responsabilité et de la transparence. Tous les comités ont travaillé dans le sens de l'amélioration de leurs opérations et dans l'examen des meilleures pratiques à travers les comités du Conseil variés. Concernant le comité de l'audit, nous avons travaillé sur un certain nombre de points afin d'améliorer le flux de travail et les produits. Il y a eu un certain nombre de choses que nous voulions vous signaler et nous avons développé les directives de comptabilité. Et ces directives sont déjà publiées en ligne sur le site web de l'ICANN, le développement des directives d'approvisionnement que nous avons également publiées. Le travail également de l'audit pour l'année fiscale 2010. Nous avons eu notre première conférence téléphonique avec eux cette semaine. Un autre point que nous avons fait était d'établir les meilleures pratiques du comité et une intégration de ces meilleures pratiques dans un plan annuel pour que les comités sachent de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qu'il faut faire au cours de chaque réunion et comment nous pouvons présenter notre rapport par la suite au comité. Autre chose que nous avons fait, nous avons été informés par le personnel, nous avons eu une hotline, mais nous n'avons jamais essayé cette hotline et nous avons essayé de l'essayer. Nous avons été informés, il y a des choses que le personnel va faire pour que nous soyons sûrs que cette ligne sera plus robuste. Une chose qui me plaît énormément, que j'ai le plaisir de vous annoncer, est que nous avons démarré notre fonction d'audit interne à l'ICANN. C'est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps et qui nous aidera à améliorer notre responsabilité. Nous avons démarré donc une fonction d'audit par Internet. Nous avons également supervisé la publication en ligne du nouveau formulaire 990 pour les taxes sur le revenu. Et nous sommes dans l'attente de vos commentaires que nous serions heureux de recevoir. Merci Rita. Nous arrivons à la gouvernance du Conseil. Et donc c'est un comité donc qui est chargé de la gouvernance du comité du conseil d'administration et Dennis Jennings est le président de ce comité du conseil. Nous allons passer donc au transparent de la présentation. Est-ce que nous avons quelqu'un qui s'occupe des transparents? Ah, c'est ici, près de vous, vous devez le passer, vous le passez l'un à l'autre. Merci, merci, je ne m'étais pas rendu compte, c'est un peu tôt. D'accord. Donc, Dennis Jennings, qui n'a pas beaucoup de connaissances techniques apparemment, préside. Et Rita Rodin, Johnson et Ramon et Ray Platsk sont les membres. Les activités actuelles et récentes, vous vous souvenez que nous avions eu une demande de reconsidération. Je vais vous parler un peu du contexte. Dans la réorganisation du comité, Il y a eu une réorganisation et une question de conflit d'intérêts. Et donc, nous avons dû nous occuper de cette requête de reconsidération et réviser et recommander et soumettre à l'approbation du conseil d'administration à Nairobi une réponse à ceci. Ceci a été présenté à la consultation publique. Une des tâches que nous faisons tous les ans et tous les semestres, c'est de travailler. C'est l'échelonnement des membres du comité et donc à la présentation de recommandations au conseil d'administration. Nous allons parler également de l'échelonnement semestriel. Nous avons mis en place des processus, nous travaillons sans obstacle. Ceci avait été de temps en temps un problème un petit assez politique, mais je pense que le processus fonctionne actuellement très bien, ou plutôt bien. À Nairobi, nous avions également avancé dans l'élaboration d'un programme de formation des membres du conseil d'administration qui comprend l'introduction, la présentation aux membres du conseil et la formation continue sur des capacités que les membres du conseil d'administration, dont les membres du conseil d'administration ont besoin. Par la suite, nous avons abordé également le processus de sélection. Nous avons révisé le processus et nous pensons que nous avons des résultats satisfaisants. Les bonnes pratiques, donc, les bons conseils sont des conseils qui s'évaluent, qui s'auto-évaluent, qui évaluent la performance du conseil et qui évaluent la performance de chaque membre du conseil. L'année dernière, pour la première fois, il y a eu une auto-évaluation du président et comme vous le savez, de commentaires précédents et de réunions précédentes, et vous avez recommandé que nous continuions ce processus et que nous l'élargissions non seulement à l'évaluation du président, mais également à l'évaluation des membres individuels du conseil d'administration. Ceci, bien sûr, est confidentiel. Et ce qui est important, et dans le cadre de notre ouverture vers la transparence, nous avons commencé la publication des évaluations de l'année dernière. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez les consulter sur le site web. Nous avons démarré un processus de discussion de la planification pour la succession du comité du conseil d'administration. Notre attitude de base, c'est que nous allons avoir affaire avec le programme de formation, bien qu'un certain nombre de présidents du comité puissent ne pas être réélus ou resélectionnés. Il faudrait également prendre soin de la formation. Nous avons commencé des discussions sur une description des postes, donc des responsabilités du président et du vice-président. Nous savons tous plus ou moins quelles sont les responsabilités, mais nous pensons que ce serait très intéressant et très utile d'avoir une description de ces responsabilités, surtout plus nous avançons dans la discussion de la rémunération des membres du conseil d'administration. Dans le cadre de la façon selon laquelle nous travaillons et que nous encourageons les membres du conseil, du comité à travailler, nous développons un plan de travail annuel de choses qui appartiennent à la routine et que ce comité devrait examiner, et le calendrier donc de ce plan de travail pour que les choses soient faites de manière opportune. Nous travaillons beaucoup avec les autres comités pour que nous puissions avoir un calendrier qui puisse être gérable. Comme vous le savez tous, nous avons facilité les discussions du conseil d'administration sur la considération donc, et l'examen de la rémunération du président du conseil d'administration, et nous avons recommandé que le comité, donc que la révision du comité de compensation propose et une proposition qui sera donc proposée également à l'examen du conseil d'administration. Nous avons beaucoup discuter du soutien aux membres du conseil d'administration pour qu'ils aient à leur disponibilité tous les outils nécessaires. Ce que nous avons fait, nous avons continué à essayer d'identifier une série d'applications logicielles uniformes pour que donc nous vérifions si les membres disposent de ces logiciels et nous pouvons donc ainsi inclure du matériel d'induction et du matériel de formation lors de la phase d'introduction des membres du conseil. Nous poursuivons nos discussions et les processus concernant le personnel et le conseil d'administration, la communauté et le conseil d'administration, donc la communication entre toutes ces entités. Vous savez qu'il y a beaucoup de communication qui se fait directement vers le conseil d'administration. Mais nous avons été très, très, très occupés pour que nous puissions tout aborder de manière opportune. Comme vous le savez, il y a un comité exécutif qui est chargé des règlements qui sont un peu obsolètes, qui définissent des membres qui n'existent plus, qui ne font plus partie du Conseil. Nous avons donc un réexamen de la charte et nous avons préparé une version préliminaire que nous allons vous proposer. Le comité exécutif est là pour fonctionner pour le compte du conseil d'administration lorsque le conseil d'administration n'est pas disponible pour une raison ou pour une autre. Et ceci est l'objectif donc et l'objet du comité exécutif. Il y a aussi une fonction en détail qui décline toutes les dépenses qui ont rapport avec les déplacements des membres du conseil d'administration. Et lorsque des décisions sont requises de manière urgente concernant des dépenses, bien sûr, le comité des finances a été mis en place pour surveiller les politiques de déboursement. Nous avons poursuivi la discussion sur la révision de la charte annuelle et sur les outils d'auto-évaluation du comité et donc pendant que les membres s'auto-évaluent tous les ans et révisent leur charte tous les ans et fournissent donc des retours d'informations, ces informations et ces opinions concernant leur performance sont postées en ligne et c'est la première fois que nous introduisons ce genre de procédure. J'espère que ceci va être prêt avant l'Assemblée générale. Une des choses que nous avons fait ces dernières années était de prendre des décisions concernant la nomination ou des personnes, de la désignation des personnes au sein du NOMCOM. Ce que nous devons faire, c'est d'identifier une organisation qui délègue donc une personne au NOMCOM. Nous avons discuté ce processus et nous avons une résolution qui va être présentée au conseil d'administration ce matin et ceci donc régira ce processus. Nous avons formalisé notre discussion sur les séries de schemes pour identifier donc un profil de capacité qui sera donc abordé dans le cadre des formations et du processus des formations du Conseil. Nous avons une liste donc de ces capacités. Nous l'avons fournie au président qui en discutera par la suite avec le président du NOMCOM. Nous le faisons avec grande précaution parce que nous sommes très sensibles au fait que le comité de nomination doit être indépendant. Nous ne savons pas si cela sera utile cette année ou l'année prochaine, mais nous espérons que ce processus sera adopté à l'avenir. Les groupes de révision du conseil d'administration ont commenté les transitions des membres du conseil d'administration entre les réunions de l'ICAN qui pourraient constituer un obstacle. Les règles qui existent aujourd'hui définissent que les membres du conseil d'administration qui sont désignés par les organisations de soutien disparaissent 6 mois après la l'Assemblée générale. Et le groupe de révision, le groupe de travail sur la révision recommande que cette transition se fasse tous les semestres. Mais nous sommes encore en train d'examiner les détails. Et ceci donc est une longue liste que nous avions à l'ordre du jour de nos travaux.
Merci, Denis. Est-ce que vous avez des questions à Denis sur le comité de gouvernance du conseil d'administration, sur leur travail? Je pensais que le micro allait m'être apporté. Je m'appelle Marilyn Cade. Je voudrais mentionner notre appréciation, à mon avis l'appréciation de bon nombre d'entre nous, pour le directoire et sa capacité de prendre du travail supplémentaire, parce que nous savons que vous travaillez déjà très dur pour nous, et entreprendre ce travail supplémentaire que vous avez entrepris, monter une plateforme et créer un héritage qui permettra à la communauté d'avancer, non seulement pour renforcer vos propres compétences, mais aussi en mettant en place un tremplin pour l'avenir et pour les membres du directoire qui est un futur. Donc vous jetez à l'eau et on vous attend de vous que vous appreniez à nager très rapidement. Je pense que ce n'est pas facile pour nous de comprendre toujours les avantages directs des dépenses liées à ce travail. Donc je dirais qu'il est important que vous apportiez ces informations, que vous donniez le feedback, parce que très souvent la communauté a des difficultés à entendre des rapports. La présentation de ces rapports a lieu à des réunions. Et quelquefois, il est important pour vous de trouver le moyen, à mon avis, de synthétiser l'objectif de ce travail supplémentaire, de cet investissement supplémentaire, pour être sûr que vous ayez l'adhésion de tous et le soutien de tous. Merci Marilyn. Une des choses qui me ravit particulièrement, Denis, c'est le travail qui est en cours en termes de formation. Nous avons un programme de formation très complet. Donc, ce sont le même type d'informations qui viennent de différentes cultures d'entreprise, mais qui sont destinés donc aux administrateurs. Et je pense que c'est très utile d'avoir une cours de formation de ce type-là qui est très vivant. Donc nous avons un certain nombre d'administrateurs qui participent à ce type de cours, à ce type de formation. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Nous avons eu un certain nombre de cours sur l'audit et sur les fonctions financières et sur les responsabilités générales des membres du directoire, pour qu'ils apprennent comment devenir membre du directoire, comment travailler en tant que membre du directoire. Mais maintenant, nous nous concentrons principalement sur un programme, le développement d'un programme de formation complet qui incorpore tous les éléments nécessaires. L'année dernière, nous avons eu un programme d'initiation d'une journée. Et cette année-ci, nous voudrions un programme d'initiation de 2 jours qui couvrira ce type de d'information. Donc il y aura de la documentation NACD, des briefings de notre juriste et des explications plus détaillées sur la manière dont ICANN travaille, qui quelquefois est un mystère même pour ceux qui ont déjà passé un certain temps au directoire. Merci Denis. D'autres questions à Denis? Si ce n'est pas le cas, merci et nous passons maintenant au rapport du comité financier. Le président du comité financier va nous présenter ce rapport. Donc c'est le registraire Rajashekar Ramaraj. Voilà, je commence mon deuxième mandat au directoire et je me suis dit que j'allais profiter de cette occasion pour faire savoir à mes collègues du directoire et à la communauté que mon nom est Ramaraj. Je n'ai qu'un nom. Peter pense peut-être que c'est une faible tentative de devenir une mégastar comme Madonna. Non, mais pas du tout, c'est mon nom. Voilà, sur la diapositive, je suis encore rappelée à l'ancienne Rajashekar Ramaraj, mais mon nom c'est Ramaraj. Les collègues qui m'ont aidé au comité des finances sont Gonzalo Navarro, George Shadowski et Bruce Tonkin comme observateurs. Et nous avons eu des membres du directoire comme Steve Crocker et Dennis Jenkins qui venaient souvent nous voir pour nous faire part de leurs opinions. Alors, Donc, nous nous sommes concentrés sur le plan d'exploitation et le budget. Nous avons eu, ça c'était l'année dernière, nous avons eu un autre défi. Le budget de l'exercice financier 2010 était en dépassement. Le personnel a fait des démarches très compétentes pour contenir ces dépassements. Et nous sommes très heureux d'annoncer que malgré certaines conditions liées à l'environnement difficiles et malgré certaines dépenses obligatoires, nous allons pouvoir néanmoins contribuer au fonds de réserve cette année également. Alors, la réponse au cadre budgétaire et ensuite au budget lui-même a été assez importante, étendue. Plus nous pouvons fournir des informations, nous avons vu la qualité très claire des réponses et l'étendue des réponses, et cela a déclenché un processus de réflexion et nous allons peut-être envisager des améliorations du processus. Donc pour le budget de l'exercice financier 2012, nous en parlerons davantage aux prochaines réunions, mais nous attendons des apports de la part des organisations de soutien, des comités consultatifs et d'autres personnes beaucoup plus tôt dans le processus. Comme on l'a décrit quelquefois cette semaine, c'est pratiquement un département d'organisation ou une division, une approche de type division. Si nous avons plus d'informations directes des organisations de soutien et de la part des comités consultatifs et d'autres personnes, plus nous en aurons, plus le processus de budgétisation sera de bonne qualité. Donc, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration des rapports, sur le type des rapports, l'arrivée des rapports en temps utile et une plus grande granularité. Donc, nous avons travaillé avec le comité audit pour avoir trois rapports sur la comptabilité, la politique d'approvisionnement et la forme révisée, une forme révisée du RSS 990. Donc, nous nous concentrons sur l'interaction avec la communauté pour une meilleure budgétisation et une meilleure conformité et un meilleur reporting. Merci. Donc, merci Ramaraj pour ce rapport du comité financier. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la communauté, de la part du public sur le comité financier et le rapport du comité financier? Oui, Peter. Ici, Rob, nous avons des interventions à distance et nous en avons une. George Kiriko demande à Ramaraj, est-ce que le BFC peut nous dire quelle a été les dépenses de gestion, la part des dépenses de gestion dans le fonds de réserve de ICANN? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Est-ce que vous parlez de la part des dépenses, du ratio des dépenses? Je suis désolé. George dit, ce sont les honoraires qui sont payés à des gestionnaires d'investissement par an, à des gestionnaires extérieurs. Je ne sais pas de mémoire. Je pense que ce sont des données que nous pouvons fournir plus tard. Si nous allons assurer une réponse spécifique à George offline, hors ligne. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que l'investissement du fonds de réserve a très bien fonctionné, a été rentable, mais nous allons de toute façon évaluer les directives des politiques d'investissement, peut-être d'ici septembre, et nous reviendrons vers vous avec les nouvelles directives, les nouvelles recommandations. Steve Crocker, vous avez des questions, commentaires? Merci, Peter. Je voulais simplement intervenir par rapport à la description de Ramaraj et sa demande de contribution des organisations de soutien des comités consultatifs au processus de budgétisation. Doug Brent a fait un commentaire dans ce sens hier aussi. Le budget a fait l'objet d'énormément de travail au cours de ces quelques dernières années pour le présenter de multiples manières différentes pour qu'il soit aussi transparent que possible. Et cependant, dans la pratique, et maintenant, je parle en tant qu'un des présidents d'un comité consultatif, je suis président du SSAC. lorsque nous essayons de faire correspondre les besoins de nos comités, nous mettons cela dans le processus de budgétisation, nous rendons compte que les pièces ne s'emboîtent pas bien, les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas bien. Donc c'est un débat qui est en cours depuis un certain temps et je voudrais exprimer mon appréciation à la qualité de la réception de ce message que j'ai communiqué en tant que présidente du comité consultatif au personnel et au comité du budget. Il a été reçu très favorablement, avec beaucoup de chaleur, et ça a été un processus un peu long de réaliser cette intégration. Il y a toujours des démarches à faire dans ce sens, mais je pense que c'est très important et c'est difficile à voir de l'extérieur, mais c'est très important en termes de mécanisme de l'opération. C'est très important d'assurer un bon équilibre au sens pratique du terme entre les pouvoirs qui influencent et l'efficacité des composantes externes de ICANN, les organisations de soutien et les comités consultatifs. En comparaison avec les opérations internes, le rythme cardiaque, le battement de cœur au quotidien qui est assuré par le personnel. Donc, assurer ces échanges, c'est d'une manière efficace. Je pense que c'est extrêmement important pour assurer un équilibre entre les opérations multipartites externes et les efforts très actifs et très vigoureux du personnel à l'interne. Merci, Steve. Rod. Très brièvement, nous allons nous pencher sur cette question au cours de l'année à venir et nous allons évaluer nos processus de planification et la coordination de ces activités. C'est quelque chose que nous allons prendre en considération, certainement. Merci. Ramaraj. S'il n'y a pas de questions, je veux profiter de l'occasion pour remercier Kevin Wilson et son équipe et Doug Brent pour leur aide extrêmement précieuse, leur soutien extrêmement précieux qu'ils ont apporté donc au comité finances. Merci. Et je suis sûr que le reste du directoire se joint à tes remerciements. Bon, et bien maintenant nous passons au rapport du comité IANA. Et Harald Alvestrand est le président de ce comité extrêmement important. Bonjour. Alors, le comité IANA est composé de moi, Harald Alvestrand, Dennis Jennings, Katim Touré, et nous avons aussi Thomas Narton et Susan Wolfe, qui sont des membres non votants, qui sont des liaisons, les officiers de liaison avec le conseil d'administration. Le comité est responsable de la supervision du travail de IANA. Et comme vous pouvez le voir dans le rapport, ce que nous passons beaucoup de temps à faire, c'est de faire en sorte que l'IANA nous dise ce qu'ils font. Alors, ça a été beaucoup de travail. Alors, la chose la plus importante que IANA ait fait cette année, ou en tout cas depuis Nairobi, c'était la signature de la racine. Je pense que c'était un projet extrêmement réussi et exécuté de manière très compétente. Donc, c'était vraiment une joie de l'observer de près. Alors, nous travaillons aussi sur la supervision d'un certain nombre d'autres problématiques qui sont traitées par IANA. IANA fait énormément de choses. Et c'est très intéressant. Et nous avons reçu la nouvelle de notre nouveau directeur IANA et de notre nouvelle directrice IANA, de la nouvelle directrice IANA, et nous lui souhaitons la bienvenue avec plaisir. Alors, tout ce que vous pouvez, tout cela, vous pouvez le lire. Il y a simplement deux points que je voudrais souligner. Nous sommes préoccupés par ce qu'il adviendra à l'avenir, pour l'avenir du programme des nouveaux TLD sur les délégations, particulièrement pour les délégations contractuelles. Et il y a eu un problème. Et le problème, ça a été que cela doit passer par le conseil d'administration pour avoir son approbation, ce qui a provoqué un retard, évidemment, le retard d'un système qui a déjà beaucoup de raisons d'être en retard. Alors, nous rédigeons une actualisation du processus d'évaluation du directoire d'ICANN et au cours de notre prochaine période, c'est-à-dire avant Cartagena, nous allons discuter de ceci avec le directoire. Nous avons des réunions une fois par mois lorsque la disponibilité des membres du directoire le permet. Et nous avons suffisamment de travail pour remplir ces réunions, comme vous pouvez le voir. Merci. Avez-vous des questions? La parole au président. Merci, Harald. Je ne sais pas si tout le monde dort encore ou si le degré de confiance est énorme pour le travail que fait votre comité. Voilà. Alors, nous pouvons passer du comité IANA au comité sur la participation publique et je demande à Georgia. Ah non, Jean-Jacques, pardon, à Jean-Jacques Subrena, le président de ce comité, de présenter le rapport. Jean-Jacques. Je suis désolée, Marilyn, c'est une question pour Harald du comité IANA. Oui, en effet. Jean-Jacques, attends un instant alors. Je suis la présidente du regroupement des utilisateurs commerciaux de ICANN et je voulais faire un commentaire au comité et à vous, Harald, sur l'appréciation que j'aimerais bien exprimer que peu importe qu'il semble ou non que la communauté des utilisateurs commerciaux comprenne bien l'importance de tout cela, je vous assure en tout cas que nous le comprenons et je voudrais souligner le fait que cette réalisation a été un pas en avant considérable pour ICANN. Alors, ça fait partie du processus d'étayage de notre travail, de renforcement de notre travail pour assurer la sécurité et la stabilité des parties invisibles du travail de ICANN. Et il y avait un certain nombre de techniciens présents à la signature et peu de représentants du monde des affaires, mais je crois qu'il est extrêmement important d'expliquer cette décision. Cette importance ne peut pas être diminuée. Cette décision doit être expliquée de telle manière que la communauté des utilisateurs commerciaux puisse comprendre l'importance de cette décision. Ça a été une réalisation considérable, quelque chose de grand, et je suis très heureuse à l'avenir. Je serai très heureuse de continuer à entendre les rapports du comité sur d'autres démarches qui seront entreprises. Et outre les explications techniques, nous voudrions aussi assurer vraiment des explications plus commerciales, disons plus accessibles à nos utilisateurs commerciaux. Merci Marilyn. Maintenant, nous passons à Jean-Jacques pour le rapport du Comité sur la participation publique.
Thank you, Peter. So these are the members of the public.
Voici les membres du comité de la participation publique pour cette année. Thomas Narten, Gonzalo Navarro, Wanda Scarteggini, Katim Touré et moi-même. Alors sur cette diapo, je n'ai pas mentionné qui est membre votant ou non, parce que je pense particulièrement dans les rôles joués par ce comité. Je crois que tout conseil est le bienvenu et je dois dire que les membres non votants, Thomas Narten et Wanda Scarteggini, ont apporté une contribution extrêmement précieuse. Donc je les remercie tous. Alors, les activités, j'ai essayé de les présenter, peut-être pas en termes généraux, mais de manière plus étroite, entre une réunion internationale de l'ICANN et une autre, ici, entre Nairobi et Bruxelles. Il s'agit ici des indications générales. Nous pouvons vous donner davantage de détails si vous êtes intéressés. Comme vous vous en souviendrez peut-être, au cours de ces quelques dernières années, il y a eu une demande croissante d'interprétation et de services d'interprétation et de traduction de qualité. Et nous ne pouvons pas nous lancer dans cette amélioration, dans ce processus d'amélioration, sans des recommandations, sans des directives claires, parce que cela implique des dépenses, et nous voulons assurer que ces dépenses soient justifiées. Alors, je voudrais faire une remarque personnelle ici. Pour le moment, Cette salle de réunion n'est pas pleine, mais hier, au cours du forum public, elle était assez pleine. Et j'ai regardé le nombre de personnes qui portaient les écouteurs. Et j'ai essayé de comparer ce nombre avec le nombre de demandes écrites émanant de la communauté de services de traduction simultanée dans ce type de rencontre internationale de l'ICANN. Je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre les deux. Donc nous allons essayer d'affiner notre approche de cet aspect avec les membres du personnel pour assurer que le questionnaire auquel vous êtes invité à répondre met en avant le fait que vous, ce n'est pas une déclaration politique, le fait de dire que vous pensez qu'il devrait y avoir 4 ou 5 langues. Vous dites simplement que vous en avez besoin comme aide, comme soutien pour une meilleure compréhension. Il y a une différence entre le système des Nations Unies et nous. Bon, il y a plusieurs différences. L'une d'entre elles, c'est que nous sommes assez plus petits, mais ce n'est pas non plus une déclaration des positions nationales ou régionales. Je pense que c'est aussi une question d'efficacité. Nous devons trouver une meilleure correspondance entre les exigences réelles et les services prestés et financés par la communauté. Vous aurez remarqué que nous faisons un effort dans le domaine de la traduction. Le grand défi, évidemment, c'est s'il y avait si l'exigence de traduction de tous les documents, des documents complets, serait compréhensible. Pour le moment, nous préférons nous concentrer sur la production de bons résumés et sur la traduction de ces bons résumés. Alors, l'annonce de la participation à distance, y compris la formation pour la communauté ICANN, je pense que cela a été assez bien. Vous avez peut-être remarqué qu'à Nairobi, où il y a eu d'autres préoccupations qui ont été abordées, mais en tout cas, la participation à distance, l'aspect de la participation à distance a été, d'après ce que m'ont dit bon nombre de membres de la communauté, un succès important. Donc, nous voulons en profiter. Nous avons reçu votre message à Nairobi selon lequel le système en général fonctionnait bien, mais selon lequel aussi il y avait des faiblesses dans la chaîne. Certains des maillons étaient très faibles, particulièrement du matériel technique comme les écouteurs, les micros, le lien avec les interprètes, avec les procès-verbalistes, etc. Et personnellement, je dois dire que cette fois-ci, à Bruxelles, cet aspect de facilitation de la participation du public a été grandement amélioré. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. La formation pour la communauté ICANN a été un processus permanent. Je voudrais vous signaler les séminaires en ligne, les webinaires qui sont donc bien en ligne. Si vous en ratez quelques-uns, essayez de vous rattraper en suivant ce qui s'est fait. Même si vous en avez raté quelques-uns, vous êtes rattrapé en suivant ce qui a été fait. J'ai trouvé qu'ils étaient très utiles. Alors, le lancement des réunions de des dernières décennies a commencé il y a quelques mois et nous vous présenterons un rapport lors de notre prochaine réunion internationale. Mais l'idée, c'est que nous avons une vision à court terme. Nous avons vraiment voulu favoriser un processus ascendant qui partait de la base et nous voulions demander à la communauté ce qu'elle pensait de l'objectif de ces réunions internationales, quel était l'objectif de départ et ce qu'elle devait devenir pour avoir une vision prospective, tournée vers l'avenir. Nous avons reçu quelques réponses et nous voudrions partager ces réponses avec vous lorsque le processus sera plus avancé. Alors, pour rester bref, je vous donne ici simplement des références, des liens et je suis à votre disposition pour les questions. Merci.
Merci Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a des questions concernant la participation publique? Je vois Olga. Bonjour. C'est Olga Cavalli. Je voudrais commencer, vous féliciter tous pour tout le travail et spécialement pour la traduction. C'était vraiment un très bon travail pour moi, par exemple, qui a l'anglais comme une deuxième langue. Concernant l'utilisation de casques et d'écouteurs, je voudrais recommander de ne pas arrêter les traductions. Je sais que ceci est très important pour les budgets, pour les organisations des événements. J'organise personnellement des événements en Amérique latine. Et lorsque les personnes viennent et parlent l'anglais, j'essaie d'avoir la traduction simultanée. Et je ne partage pas, si vous voulez, je ne sépare pas les personnes en deux groupes. Un groupe qui peut suivre les discours, un groupe qui ne peut pas les suivre. Avant de commencer, il faut savoir, les personnes vont se souvenir que la traduction simultanée est disponible. Nous sommes tellement habitués au fait que l'anglais est la langue communication en général à l'ECAN dans les réunions que nous oublions qu'il y a la traduction simultanée. Personnellement, moi aussi, j'aurais dû maintenant parler en espagnol, par exemple. Mais si vous gardez ces possibilités dans les réunions à l'avenir, ça permettra aux nouveaux venus de pouvoir profiter de ce service. Et personnellement, dans les différentes organisations de soutien, nous faisons beaucoup d'efforts pour en faire savoir. Et j'encourage à garder vraiment cette disponibilité de traduction simultanée.
Je pense que la question qu'a posée Jean-Jacques Subrenal, président du comité, sur est-ce que les choses se sont améliorées depuis la réunion de Nairobi et maintenant, du point de vue technique, oui, absolument, et de beaucoup de manières. Et je pense que que la communauté doit saluer les efforts de l'ensemble des organisateurs de cette manifestation pour nous avoir permis d'avoir des traductions simultanées, de l'interprétation simultanée, y compris pour les gens qui appelaient depuis l'extérieur de la salle de réunion et vice-versa. Je voudrais insister sur ce que vient de dire Olga, qui effectivement aurait pu parler en espagnol, que nous avons le fait d'avoir des écouteurs, le nombre d'écouteurs me semble être pas un bon critère. Parce que si nous enlevions l'écran que vous avez derrière vous, en ce moment, l'ensemble des participants qui ne comprennent pas le français devraient avoir des écouteurs. Et ils ne les ont pas. Donc, le calcul qui est fait de dire « Vous comprenez l'anglais, vous n'avez pas besoin d'écouteurs » devrait être « Vous allez avoir à écouter une langue, des langues que vous ne comprenez pas éventuellement, et auquel cas il faut des écouteurs. » Aujourd'hui, dans cette réunion, sauf ceux qui parlent français, espagnol, anglais, devraient tous avoir des écouteurs. Et en plus, il faut considérer que ceux qui sont à l'extérieur de notre salle de réunion peuvent aussi avoir besoin de ces traductions. Je ne vais pas être plus long. Merci, Monsieur le Président de la Commission et Monsieur le Président du Board.
Thank you. Any other comments or questions in relation?
Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres commentaires concernant la participation publique? Nous allons passer donc au comité sur le risque. Merci, Peter. J'essaye donc de me retrouver dans les transparents. Je vous présente les membres donc du comité. Personnellement, c'est moi-même, Steve Crocker, Raja Sekar, Ramaraj, Max Silber et Suzanne Wolf. Une des choses que nous faisons au cours des réunions sur la gestion du risque, c'est d'examiner et de nous concentrer sur un domaine spécifique, un domaine particulier des risques, et de nous approfondir. Nous avons parlé lors de la réunion du 20 juin de la stratégie de risque pour la gestion donc des installations et des sites qui vont héberger les réunions de l'ICANN à venir. Il est clair que nous devons considérer une participation d'environ 1000 personnes et que toutes ces personnes doivent être, qu'il doit y avoir une sécurité pour toutes ces personnes, et tout ceci doit se faire bien sûr selon des normes et selon des notes et des scores des Nations Unies. Et donc, nous examinons également les documents consultatifs de déplacement qui ont été publiés par les divers gouvernements. Un grand nombre de gouvernements publient des documents consultatifs pour leurs citoyens provenant des divers pays. Et s'il y a et en fait, si nous identifions que le site présente un niveau de risque élevé, il y a plus de travail qui est fait sur le site, plus de diligence en termes de visite sur le site et un plan de sécurité est développé, est élaboré pour ce site. Sinon, nous suivons les précautions usuelles et de mise pour ce genre de réunion. Donc, en fait, cette notation de risque ne veut pas dire que nous n'allons pas visiter divers sites de par le monde, bien sûr. Mais lorsque un site présente un niveau plus élevé de nécessité de sécurité, nous prenons des précautions plus spécifiques au site. La deuxième chose que nous avons examinée était la fonction IANA. C'est une des fonctions, si vous voulez, que nous apprécions et que nous évaluons du point de vue défaillance par rapport aux procédures de l'IANA qui n'arrivent pas et qui compléter, à réaliser les demandes de changement de manière opportune. Deuxièmement, nous avons également vu l'introduction non voulue d'une erreur en d'autres termes quand quelqu'un fait une faute, une erreur. Donc, nous essayons et nous concevons un processus pour la minimisation de ces erreurs. Et enfin, nous avons l'introduction intentionnelle d'une erreur. Et là, il faut demander donc un registre particulier pour que les procédures de sécurité nous garantissent que ces changements vont être, que cette correction va être faite tout de suite. Il y a certains autres points que nous examinons et qui ont à voir avec le personnel. Il faut nous assurer que nous sommes assez bien encadrés pour ne pas avoir de problème. Nous examinons également la formation et l'embauche ou de nouveaux membres. Nous avons également une règle de 2 personnes pour la majorité des étapes manuelles dans le processus afin qu'il y ait toujours une supervision de la 2e personne. Et bien sûr, il est clair que nous voulons garantir que l'environnement des technologies de l'information fonctionne à des niveaux élevés de disponibilité et ceci inclut des choses comme par exemple les connexions de réseaux multiples, les ordinateurs multiples, les routeurs multiples et l'infrastructure de technologie de l'environnement qui doit être redondante et c'est ainsi que nous avons fait des exercices et des tests pour pouvoir parer aux imprévus dans des sites comme par exemple à Los Angeles. Et vous pouvez voir que nous avons publié des rapports sur les tests et les procédures que nous sommes en train de réaliser. Il y a un autre nombre de domaines que nous avons également examiné plus en détail. Et vous pouvez voir que nous regardons, en fait, nous examinons la différence entre les risques que nous arrivons à contrôler et l'ensemble des risques qui existent dans l'environnement de l'Internet. Par exemple, nous examinons les serveurs de racine et nous voulons être sûrs donc que la racine, elle, de l'ICANN fonctionne de manière stable et sans problème. Il y a donc également le sujet de la participation Concernant le DNS, enfin, le risque pour le DNS, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats concernant l'évaluation des risques pour le DNS. Et j'étais vraiment ravie d'entendre de la part de Chris Dispin hier, le président du CCNSO, qu'une initiative de la communauté a été donc lancée. Et dans le cadre de cette initiative, les représentants des codes de pays du GNSO et dans l'ensemble vont examiner ensemble les risques pour le DNS dans le système, dans son ensemble, et identifier certains des risques majeurs. Tout ceci pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté et pour que l'ICANN, il n'y a pas une seule organisation qui détient en fait toutes les solutions. C'était une petite énumération de certaines des choses que nous avons examinées par le passé, de certaines des problématiques que nous avons examinées au cours de cette réunion et pour cette réunion, les questions d'allocation, les questions donc de la racine L. Nous essayons aussi d'inclure plus de détails et d'avoir plus de documents, de briefings sur ces questions qui seront soumises donc à la communauté, à l'examen de la communauté. Nous identifions également tous les risques. Une chose importante dans la gestion du risque est que ceci ne veut pas dire que rien ne peut, que tout doit marcher à la perfection ou fonctionner à la perfection. Il y a une différence dans l'examen donc des conséquences du risque. Récemment, dans le cadre du déploiement, il y a eu donc une erreur dans l'un des systèmes, et dans ce cas spécifique, la probabilité était vraiment très imprévue, était très peu fréquente. Donc, je voudrais vous dire, si on dit qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons un exercice d'urgence, de première urgence, il faut, quand vous écoutez l'alarme, il faut immédiatement évacuer le bâtiment. Lorsque vous avez, et il faut donc avoir autant d'exercices que possible pour être sûr que tout fonctionne parfaitement. Et bien sûr, des situations pareilles ne sont pas très fréquentes, mais ceci s'est passé quand même très récemment dans l'espace de sécurité. Un des autres domaines que nous examinons est l'élaboration de procédures et la mise en place de procédures pour une nouvelle organisation autour de la gestion du risque. Il ne s'agit pas uniquement de l'identification des risques au préalable, mais également de l'analyse de l'impact et de l'incidence, et donc de l'analyse de ces incidents. Et donc, vous vous réunissez et il faut examiner tous les aspects, mettre ceci sur papier officiellement et essayer donc d'apprendre autant que possible de votre expérience, de vos expériences, et donc d'établir des archives que les membres du personnel peuvent consulter dans le cas de si jamais un événement similaire survenait. Donc ici vous avez également une liste des choses que nous allons examiner par la suite. Nous avons donc la réévaluation du risque. Une autre section qui a rapport avec la coopération entre les comités, à savoir l'IANA, le comité d'audit, et les comités de finances sur divers sujets. Nous allons approfondir donc les processus de l'IANA, nous allons participer ou communiquer et nous mettre en contact avec les membres du comité de l'IANA. Nous essayons d'examiner également toutes les commandes qui sont mises en place pour la gestion du risque. Merci.
The Risk Committee.
Nous allons entendre maintenant le rapport du comité des risques. Est-ce qu'on a des commentaires en ligne? Non, des commentaires de directoire, donc ce n'est pas le cas, merci beaucoup. Donc un domaine de travail très important. un des travaux qui sont tout à fait dans l'ombre. Lorsqu'on fait un bon travail, personne ne le sait. Alors, on peut bouger. On peut passer donc au dernier des comités du directoire, qui est le comité des améliorations structurelles. Et je vais demander à Ray Plezac de nous parler de ce rapport. Merci, Peter. Nous avons une animation ce matin. Je suis Ray Plezac, président du comité. Alors, nous avons Mike George, John, Jean-Jacques comme membre actif du comité. Raimundo Becca est aussi un membre actif du comité. Il a participé aux activités du comité. Depuis qu'il a quitté le board, le directoire, et nous avons vraiment apprécié ses conseils permanents et ses opinions dans ce domaine. Nous avons aussi un changement du personnel de soutien. Nous sommes maintenant soutenus par Olof Nordling, et Olof s'est jeté tête la première dans le travail du comité. Il a déjà fait beaucoup de bon travail. Alors voici l'état actuel des choses. Comme vous pouvez voir sur la diapo, nous avons dans le groupe de travail à réviser les rapports que nous avions faits. Les activités at large ont été terminées. Alors, il y a les résolutions sur les progrès à réaliser par les membres du comité at large. Tout d'abord, il y aura la révision et l'évaluation du règlement qui est absolument nécessaire. Alors, l'objectif déclaré, c'est de faire en sorte que cette personne assiste à l'AGM à la fin de l'année. Nous avons aussi reçu un plan de mise en œuvre de la part de l'ALAC et nous allons avancer sur ce terrain-là pour que, bien que le travail ait déjà commencé dans ce domaine, pour que ce plan puisse être réellement mis en œuvre et finalement adopté par le directoire. Nous avons continué à évaluer le travail avec le NCSG. Nous avons évalué leur charte, révisé leur charte. Alors le NCSG a fait beaucoup de travail. Ils ont travaillé vraiment dur dans ce domaine et le comité apprécie vraiment tous leurs efforts jusqu'à ce jour et nous pensons que des progrès réels ont été réalisés à ce niveau-là. Alors, juste pour rappel, le NCSG agit actuellement en vertu d'une charte provisoire et nous travaillons pour produire une charte définitive qui devra ensuite être approuvée par le directoire. Nous avons commencé à travailler sur la préparation du mandat des évaluations des deux derniers groupes, le ASSO et le TLG. Donc l'organisation de soutien de l'adressage et le TLG. Alors, dans notre travail à l'avenir, une des choses que nous devons faire, c'est la mise en œuvre des rapports d'évaluation. C'est-à-dire que nous devons pour cela savoir ce qui se passe. Et la méthodologie appliquée par le passé, a consisté en rapports détaillés réguliers émanant du personnel. Et comme prévu par nos règles, ces rapports étaient en général trimestriels. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous orienter vers un tableau de bord qui sera disponible sur le site web de l'ICANN et qui sera mis à jour au fur et à mesure que les choses avanceront et sur une base ad hoc pour que la communauté puisse disposer d'un rapport en temps réel sur le projet de la progrès de la mise en œuvre de tous les résultats des évaluations. Nous allons commencer l'évaluation des TLG. En réalité, il y a quelques résolutions ce matin à ce sujet. Nous avons commencé le travail pour démarrer l'évaluation de l'ASO. Nous espérons que nous pourrons vraiment terminer les activités du NCSG et que nous pourrons d'ailleurs terminer toutes nos activités par rapport aux recommandations de mise en œuvre. Voilà, merci. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci pour ce travail très important sur la partie très structurelle de ICANN. Donc, merci beaucoup pour le rapport. Y a-t-il des questions de la part de la communauté sur ce rapport? Merci, Ray.